La dérobade grand format à la rubrique éducation, c'était mercredi dernier dans l'après-midi, une conversation ordinaire entre adolescents dans la salle de l'internat du lycée Victor Duruy à Mont-de-Marsan.
Comment marcherait finalement votre réforme? L'idée ce serait de placer l'âge pivot à 65 ans, sans pour autant retirer...
64, si vous avez suivi toutes les dernières déclarations du gouvernement, on sera entre 64 et 65, ça dépendrait, il y aura des compromis, il y a des réunions qui sont prévues avec les différents syndicats, les différentes forces patronales également, donc ça va être plutôt sur une négociation entre 64 et 65, ça dépendra des cas de figure.
Bon, partant du principe que de toute façon la Macronie autocrate est têtue, on va rester sur les 65.
Oui, bon, ordinaire, pas tout à fait, je vous l'accorde, il s'agit en réalité de l'extrait d'un débat public sur la réforme des retraites parmi les 8 battles de ce mercredi après-midi organisé au sein du lycée Montois entre 25 élèves du module de préparation au concours d'entrée à Sciences Po. 8 battles sur autant de sujets d'actualité que pour ou contre la corrida, l'euthanasie, le boycott de la Coupe du Monde, la discrimination positive à l'école ou encore la radicalité climatique. Soit des exercices destinés à parfaire leur éloquence, comme l'explique ici leur professeur de sciences économiques et sociales, Éric Fricot.
On sait que c'est un groupe qui aime beaucoup débattre. Il y a des antagonismes dans l'argument. Ils se respectent toujours et il y a des idées politiques assez marquées, donc on s'est dit on va prendre des thèmes d'actualité, on va les sortir de leur zone de confort en leur proposant de défendre l'argumentaire inverse et puis ils se sont pris au jeu. Je trouve qu'il y a eu un rendu de qualité, ils ont préparé ça sérieusement en une dizaine de jours et on avait un public, on a de bons retours de la part des élèves présents, donc voilà, c'est une démarche positive et un résultat qui nous satisfait beaucoup.
Oui, vous avez bien entendu, car comme si le fait de se produire devant un jury et un public ne suffisait pas, il a donc qui était demandé aux élèves de défendre des positions contraires à leurs convictions. Mais pourquoi donc ?
On leur a dit, vous allez rentrer dans la tête des autres, parce que quand on maîtrise l'argumentaire des autres et quand on le connaît sur le bout des doigts, c'est beaucoup plus facile après de réagir et de trouver du contre-argumentaire. Ensuite, il y avait un thème sur la cancel culture, et on sait aujourd'hui, j'en veux pour preuve à Bordeaux encore hier, que quand on organise des débats, y compris à l'université, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que à l'extrême droite, à l'extrême gauche, il y a des gens qui finalement sont contre le débat. On s'en rend compte de plus en plus. Donc nous, on va essayer d'être un peu médiant dans tout ça et de valoriser le débat, parce que je pense que le respect entre eux, il partira aussi de leur capacité à échanger en se respectant.
Militer pour ce qu'on ne veut pas, c'est donc ce qu'a dû faire Yanis, 17 ans, opposé au report de l'âge légal à la retraite et à qui il a été demandé de s'en faire à l'oral le plus artisan partisan. Comment l'adolescent d'ailleurs a-t-il travaillé son argumentaire?
C'est surtout savoir s'exprimer, savoir convaincre. Je pense que les hommes politiques sont très forts pour ça, c'est-à-dire dire des choses qu'on ne pense pas ou qui sont totalement absurdes, mais qui passent très très bien.
Limite, c'est... Alors je vais aller plus loin, limite c'est de ne pas croire à ce qu'on raconte. Ou de mentir sciemment.
Je pense que c'est pas ne pas croire.
C'est dire l'inverse de ce qu'on pense.
Dire l'inverse de ce qu'on pense, mais c'est un travail... Moi, je trouve que c'est un travail intéressant, du coup, parce que ça nous implique, ça nous demande de réfléchir à des choses dont on n'aurait jamais réfléchi si on s'implique pas dans ce fait-là.
Donc en fait, quand ils disent « Française, Français, le plus dur de la crise est derrière nous ». Oui, bon, en fait, ça, c'est un autre débat. Autre débat, justement, sur un sujet plus sensible encore, celui du port du voile dans la société française, avec peut-être, qui sait, un avantage pour Matisse, celui de ne pas avoir spécialement d'avis tranché sur la question. Selon lui, cet exercice relève quand même du numéro d'acting.
Exactement, et du coup, ça nous fait un petit peu l'exercice, et là, ça m'a fait un petit peu l'exercice d'aller chercher des informations que je ne serais jamais allé propre fait, mais du coup, oui, ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu d'esprit, de voir les différentes opinions, ce que pensent les Français de tel ou tel sujet, ou même la loi. Ouais. La loi, j'en ai appris un petit peu plus sur la loi, sur
qu'est-ce que vraiment... Ça se prépare, ça.
Oui, qu'est-ce que vraiment la laïcité, tous les principes de prosélytisme, etc., que je connaissais pas forcément avant, et là, aujourd'hui, si je débat ou que j'en discute avec quelqu'un après ce débat, ça me permettra de pouvoir en discuter normalement.
La thématique de l'éloquence, justement, qu'est-ce que ça apprend de s'exprimer devant un public pour défendre des idées qui ne sont pas forcément les siennes?
Pour moi, l'éloquence, c'est déjà faire comprendre à des gens qui ne comprennent pas, donc par la simplicité. Après, s'exprimer avec un bon français, c'est aussi bien. Mais moi, on m'a toujours dit, certains professeurs à moi m'ont dit, comme à l'écrit, montrer aux gens comme si t'étais des enfants de 3 ans. Et l'éloquence, là, ici, j'ai essayé de faire des choses simples ou alors de faire des rapprochements très simples pour que les gens comprennent vraiment la portée du dialogue. Pour moi, l'éloquence, ça permet de donner des idées, de porter son discours, de porter sa voix. Si demain, je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je pourrais aller manifester, prendre la parole au micro. Voilà. Et ça permet aussi d'enlever un petit peu de timidité.
En attendant, timide ou pas, Mathis va devoir défendre le port du voile en France devant Lina, elle aussi favorable, mais qui va donc, durant quelques minutes, se muer en sa plus farouche opposante. Le débat peut commencer.
Le port du voile, tout simplement, il bafoue les valeurs de la République, que ce soit la liberté, l'égalité, la fraternité.
Il y a une loi qui est régie par l'État et le gouvernement et qui autorise donc le vol dans l'espace public. La loi ne régit pas spécifiquement le port du voile dans un lieu public. Le port de signes religieux dans l'espace public n'était pas interdit par principe. Donc le port du voile est tout à fait autorisé par l'État.
C'est pas parce qu'il est autorisé qu'il est, il est pas problématique, puisque...
Problématique pour qui ?
Pour plusieurs personnes. Déjà, il est problématique pour les femmes, puisque c'est un signe d'oppression et d'assujettissement de la femme. Il est imposé par les hommes, il n'est porté que par les femmes. C'est purement inégalitaire.
Je veux dire quelque chose, les hommes mentent, les chiffres, non. Tout d'abord, je ne sais pas d'où tu sors tes sources, mais ce discours-là, il est porté par les extrêmes. Si on reprend un peu les statistiques, seulement 1% des femmes disent porter le voile par pression sociale ou familiale. C'est très peu, 1%, déjà trop. Mais par rapport aux arguments que tu avances, c'est assez déconcertant de se dire que la famille, les gens, leur quartier, leurs voisins, peu importe, leurs amis, leur mettent une pression telle qu'elles sont obligées de porter le voile. Avant tout, c'est un choix de porter le voile. Les jeunes femmes musulmanes viennent et disent ouvertement qu'elles ont choisi elles-mêmes de porter le voile. Le voile, c'est simplement cacher leurs cheveux par choix religieux, mais pas non plus par prosélytisme. Ce n'est pas pour faire un recrutement au sein de la cause religieuse. C'est simplement par choix.
Alors déjà, cet argument du libre arbitre, du choix, il est faux, puisqu'en fait, le port du voile, il est instauré par la charia, qui déjà, en fait, c'est l'inégalité pure entre les hommes et les femmes. De plus, tu as dit qu'il n'y a pas de massification du port du voile, etc. Alors comment ça se fait que c'est tout récent, puisque avant les années 2000, on n'a jamais vu de femmes voilées, etc. Et c'est vraiment récent comme... comme phénomène, c'est des phénomènes qui sont notamment prônés par TikTok, etc. C'est des choses qui se multiplient chez les jeunes et qui n'est pas historique.
Le voile, c'est quelque chose, comme je t'ai dit, d'autorisé. D'autres choses telles que la burqa, le niqab, ce n'est pas autorisé. La loi le dit. Donc de me dire que ça s'est répandu, certes, mais si le nombre de personnes pratiquant une religion augmente, évidemment... à côté, ça va être voyant, les gens vont le porter plus, tu vas plus en croiser, tu vas plus en voir sur les réseaux sociaux aussi. TikTok, c'est tout nouveau, on ne voyait pas autant de gens, hormis sur Instagram, etc. Mais aujourd'hui, on le voit, c'est juste que c'est plus voyant. Ça existait, ce n'était pas relayé, mais aujourd'hui, ça l'est. Donc de dire qu'aujourd'hui, c'est un phénomène de mode de porter le voile, ou alors de dire que c'est des gens qui veulent faire le recrutement pour je ne sais qui, sous une forme de prosélytisme, je ne pense pas que ça soit un argument qui tienne la route.
Alors, comment tu expliques que dans une république laïque, d'accord, ça se voit autant une religion, en fait, dans l'espace public, c'est pas censé se voir, il y a quand même un devoir de discrétion, de pratiquer, en fait, la religion dans la sphère privée. Ça va pas être dans le champ public, en permanence.
Laïcité ? Qu'est-ce que la laïcité ? La laïcité, c'est la conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État, et qui exclut les Églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et en particulier de l'organisation de l'enseignement. Donc il est régi dans la Constitution française de 1958. Le voile a tout à fait sa place, comme tout signe religieux, que ce soit une croix, moi j'en ai ici une chaîne, j'ai très bien le droit de la porter, de la montrer dans l'espace public, pas ici. Mais dans l'espace public, il est tout à fait autorisé. Emmanuel Macron disait encore, le port du voile dans l'espace public n'est pas l'affaire de l'État. L'État, c'est l'école, primaire, collège, lycée, mais pas l'espace public. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'ici, que les personnels enseignants, que les personnels publics, ou encore les élèves, n'aient pas l'autorisation de porter des signes ostentatoires, que ça soit voile, que ça soit croix, que ça soit peu importe, que ça soit pour la communauté juive, peu importe la religion, ils n'ont pas le droit. Dans l'espace public, ils l'ont. C'est tout.
Sauf que le voile, c'est une arme politique, en fait. C'est un peu le cheval de Troie de l'islamisme en France, de cette multiplication de... Ben, en fait, c'est une forme de radicalité, hein, le porter, et puis imposer aux autres, en fait, de le porter. Enfin, il est imposé par les hommes de le porter aux femmes, mais il est également, en fait, imposé à la vue de tous.
Une arme. Une arme pour quoi ? Pour tuer ?
Non, c'est une arme politique.
Une arme politique. À quelle fin ?
À la fin de... intégrer l'islamisme dans la société française.
Dire que le voile, c'est une arme. Une arme, pour moi, c'est quelque chose qui permet de tuer. Voilà. En Iran, par exemple, le voile, c'est quelque chose qui tue. Je vais prendre la mort de Mahsa Amini, qui a été tuée car elle laissait passer des cheveux de son voile, qui a été tué par des policiers. Ça, c'est une arme qui est utilisée par ce gouvernement totalitaire islamique, qui est en Iran, une théocratie, qui ne laisse aucune liberté aux femmes et qui est contre leur émancipation. Aujourd'hui, en France, on leur laisse cette liberté. Donc de me dire qu'elles ne sont pas libres, c'est faux. S'il faut avoir un combat, dans ce cas-là, c'est contre cette oppression que tu me dis, et pas pour l'interdiction du voile, du coup. Pour moi, cette liberté, elle est préservée en France, on leur laisse le choix, qu'elles le portent ou non, mais dans d'autres pays tels qu'en Iran, elles n'ont pas le droit, et elles meurent.
C'est pas un choix, c'est une pression psychologique, elles sont contraintes en fait, elles sont assujetties à ce duel entre l'enfer et le paradis, ça c'est pas un choix, ce sont les forces.
Qui les forces?
La pression, c'est tout.
La pression des pères, des oncles, même de leur mère en fait.
On a déjà parlé là tout à l'heure, j'ai déjà donné mes arguments sur ça, mais...
Le voile, ce serait les rendre libres en fait de pas le porter.
Donc l'interdire ça serait leur donner, comment dire...
La liberté de pas le porter, ouais.
D'accord. Donc liberté égale interdiction. Le débat est là.
Argument de poids déployé ici par Mathis. Lina qui aura tenté de ne pas laisser transparaître ses réelles convictions. Comment d'ailleurs la lycéenne avait-elle préparé ce battle et ce contre-emploi dans la peau d'une opposante au port du voile?
On regarde des interviews de personnages politiques assez caricaturaux et puis on prend des notes.
Du genre
Marine Le Pen, Éric Zemmour.
Ah oui, c'est une bonne préparation.
Oui, oui.
En face de toi, ton camarade, ça a été, ça se respectait, mais ça allait du tac au tac. Comment t'as vécu ce moment?
J'ai trouvé qu'il a très bien défendu le sujet.
Ouais.
Puis il a été bien.
Toi, tu t'es trouvé comment?
J'aurais pu être plus argumentative et plus éloquente.
Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? Je sais pas comment, cet exercice.
Que c'est toujours intéressant de développer une argumentation entière pour les convictions inverses. Et voilà, qu'il y a des arguments de tous les côtés qui sont défendables et contredisables aussi.
Autour de toi, qu'est-ce qu'on en a dit? Famille, potes, comment ils ont jugé?
Moi, mes parents, ça les faisait rire que je défende ça, parce que c'est le genre de débat qu'on a entre nous, parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec tout ce que je dis. Donc, ils étaient très contents que je défende quelque chose de différent, que je change de position.
Ça t'a donné envie de parler en public, de t'exprimer plus en public, de défendre tes idées à toi?
Oui, du coup, oui. Ouais. C'est mieux quand on défend ses idées.
Ouais.
L'avenir le dira pour Lina et ses camarades au lycée Duruy, parmi les élèves du module de préparation au concours d'entrée à Sciences Po. Ce contre-emploi destiné à parfaire leur éloquence est en effet aussi un moyen d'apprendre à écouter l'autre dans une société et des médias où les débats stériles tournent le plus souvent au pugilat, comme le conclut ici leur professeur Éric Fricot.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est, et vous n'êtes pas du tout dans cette logique sur votre radio, il faut rapidement que ça monte et qu'il y ait un clash au bout, parce que tout le monde va en parler. Et je crois au contraire que pour qu'on puisse les préparer à l'avenir, il faut que ces jeunes-là, d'abord, ils acceptent le contre-argumentaire, ça c'est le premier point. Et puis deuxième point, je pense que dans leur qualité de réflexion, écouter les autres, proposer de la réflexion, proposer de l'argumentaire et essayer de s'écouter, tout simplement, je pense que c'est un bon exercice intellectuel, et puis c'est le rôle de l'école aussi. L'école, elle est neutre, elle est en dehors de tout ce débat, et elle doit former des citoyens capables, je dirais, de sauver la démocratie, parce que ça passera aussi par ça à un moment donné.
Casser un petit peu aussi les codes du traditionnel examen, écrit oral.
La dissertation en 2-3 parties, ou alors la philothèse, antithèse, synthèse. Ils le font par eux-mêmes, et c'est à l'oral, et je pense qu'on a besoin de valoriser ces qualités à l'oral, parce qu'il y a des élèves qui sont très brillants à l'oral aussi.